Métaphysique à Fribourg, le 1er février 83, premier cours.
Dernière fois, le point de vue de la métaphysique sur l'acte et la puissance. Comprendre comment l'intelligence, dans sa recherche sur l'être, le tiesti de l'être, ne peut pas s'arrêter à la découverte de l'ousia. C'est important parce que ça nous montre comment la philosophie d'Aristote n'est pas une ousiologie, comme l'a dit Gilson, mais que c'est quelque chose de plus, c'est quelque chose qui va plus loin, parce que la découverte de l'ousia n'est pas adéquate à ce qu'est la réalité existante dans sa profondeur. C'est-à-dire n'est pas adéquate, si vous voulez, à la personne humaine, à l'homme, puisqu'en définitive, c'est toujours l'homme qu'on recherche. La découverte de l'ousia est quelque chose de très important. C'est comme la première arête de la réalité. C'est la source de toutes les déterminations, mais ce n'est pas adéquat à la réalité. Ça, il faut bien le saisir, c'est très important. Parce que si on ne voit pas cela, on ne comprend pas ce que représente cette recherche particulière de l'être en acte et de l'être en puissance. Alors, pour bien découvrir ça, il faut, je crois, à la fois revenir au langage, comprendre que le langage implique le point de vue du verbe, ce que j'avais souligné. Ce n'est qu'un signe, évidemment. Mais le langage est quand même très important pour nous. Le langage montre que nous ne pouvons pas tout ramener au nom. Le langage implique le point de vue du verbe. Alors que signifie le verbe ? Il montre que le nom exerce certaines activités et que la réalité qui existe est autre chose qu'une réalité qui n'existe pas. Alors vous avez là deux états différents de la même réalité. Si le nom exprime l'aspect substantiel, la détermination fondamentale, le verbe exprime donc quelque chose de particulier, un état spécial de la réalité. Je crois que ça, c'est simplement un signe. Puis ensuite, nous revenons à nos expériences et nous voyons que, de fait, nous pouvons découvrir en nous diverses modalités, divers états qui expriment bien des états très différents, être éveillé et dormir, être capable de réaliser quelque chose et de l'exercer. Alors vous voyez, c'est tout de suite la dunamis. Qu'est-ce que ça représente, le fait de la capacité d'un être? La capacité d'un être relève tout de suite de sa substance. Un être, du fait même qu'il a une détermination, est capable d'opérer, est capable de poser certaines activités. Du fait même qu'il a justement cette possibilité de... Il a cette possibilité de s'exercer, mais il n'exerce pas nécessairement. Donc, le point de vue de la capacité dans la ligne des déterminations, on dirait que ça fait partie des qualités, et les qualités relèvent de la substance. Les qualités existent, sont être dans la mesure même où ils sont relatifs à la substance. Mais ces capacités, ces qualités, ont des états différents. C'est-à-dire qu'en elles-mêmes, elles peuvent s'exercer ou ne pas s'exercer. Je suis capable de voir ou de ne pas voir. Je suis capable de poser telle ou telle activité vitale ou de ne pas la poser. Donc là, il y a un problème qui se pose à moi. Qu'est-ce que ça représente? Et c'est là où, en interrogeant la réalité, je vois que la réalité est susceptible. La même réalité fondamentalement, est susceptible d'états différents. Qu'on représente ces états différents. Des états d'imperfection et des états de perfection. Alors, c'est à partir de cette constatation que nous pouvons progressivement, lentement, découvrir ce qu'Aristote nous dit, une induction analogique synthétique. Alors, il faut bien saisir ce que représente cette induction analogique synthétique. Elle est analogique parce qu'elle se réalise à des niveaux différents. Elle est synthétique parce qu'elle rassemble ces niveaux différents pour découvrir à travers ces niveaux différents l'unité profonde qui existe dans cette diversité. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien saisir. C'est qu'il y a quelque chose de synthétique, il y a quelque chose qui unifie cette diversité. Et ce quelque chose qui unifie cette diversité ne peut exister qu'au niveau de l'être. Parce que la diversité de ces états est tellement variée, puisqu'il regarde à la fois la vie, il regarde en même temps le devenir, il regarde le facere, il regarde l'agir, il regarde, nous pouvons même dire, au point de vue métaphysique, la substance. Puisque je peux parler de la substance qui agit. Pierre marche. Pierre travaille. Alors que veut dire ce point de vue-là? Je ne peux pas ramener le point de vue de l'action, marcher, travailler, uniquement au prédicament. Je sais très bien qu'il y a une analyse qu'on pourrait faire en disant action et passion. Marcher, c'est une action. Travailler, ça peut être une action et une passion. Parce qu'en travaillant, je me modifie. Donc, il y a les deux choses. Alors, je pourrais dire, au fond, le verbe se ramène tout simplement à l'action et à la passion. Alors, à ce moment-là, pas besoin de poser le verbe. Pas besoin de poser une nouvelle recherche. Mais vous comprenez que lorsqu'il s'agit de l'action et la passion, au niveau prédicament, je ne regarde que les déterminations. Et je ne saisis pas ce que représente l'exercice même de l'action et de la passion. Et puis, plus profondément encore, je ne saisis pas ce que représente le point de vue du fait que l'action et la passion impliquent le point de vue de l'exister. Ils sont liés au temps et ils impliquent le point de vue de l'exister. Alors, l'exister, vous ne pouvez pas ramener l'exister à l'action et à la passion. Il y a donc quelque chose de plus fondamental que l'action et la passion, quelque chose qui va plus loin, et c'est là où je constate que ces deux états, les deux états de perfection et d'imperfection de la réalité, m'obligent de découvrir dans l'être quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau correspond bien à l'interrogation: quelle est la perfection de l'être? Y a-t-il dans l'être, y a-t-il dans la réalité un au-delà de l'être? Oui, ce serait une autre manière de le saisir, et je crois que ce serait peut-être au point de vue de la position d'Aristote par rapport à Platon quelque chose de très important. Pour Platon, le bien est au-delà de l'être. Et faites un peu ce parallélisme, si vous voulez. Alors vous comprendrez mieux. Le bien est au-delà de l'ousia, puisque le bien est sans ousia. Donc le bien est un sur-ousia, super-ousia. Et faites le parallélisme avec le père de Finance, c'est toujours intéressant. L'action est sur-être. Oui, la tendance platonicienne que nous découvrons, de voir que l'action qui m'unit au bien, par où je suis en liaison avec le bien, est sur-être, et quelque chose qui est au-delà de l'être. Exactement comme pour Platon, le bien est au-delà de l'ousia. Donc, comme l'ousia, c'est être, d'adéquation, on peut dire que la métaphysique de Platon est une ousiologie, vous voyez, parce que l'être, l'ousia et l'être sont identiques. Mais il y a au-delà de l'ousia et au-delà de l'être, le bien, qui est quelque chose qui dépasse l'ousia. Alors il faut se poser la question, et on comprend très bien, Aristote, face à Platon, se pose la question, est-ce que le bien est vraiment... Et on pourrait commencer tout ce chapitre sur la recherche de l'être en acte et de la puissance par cette interrogation. Parce que celle-là, cette interrogation, Aristote se l'est posée. Est-ce que le bien est au-delà de l'être? Ou est-ce que le bien est un mode de l'être en acte? Donc, est-ce que le bien, deux interrogations pour Aristote, et au fond, c'est ces deux interrogations-là que nous devons nous poser. Est-ce que, de fait, l'être, le bien, dépasse l'être? Et donc, je ne peux pas expliquer le bien par l'être. Je dirais, je devrais expliquer l'être par le bien. Si j'étais tout à fait logique, un bon platonicien. Je devrais dire, puisque le bien est au-delà de l'être, c'est donc le bien qui explique l'être. Alors, comment le bien explique-t-il l'être? Ça deviendrait une question très intéressante. Comment le bien explique-t-il l'être? Est-ce que vous pouvez dire que le bien explique l'être? Mais si je suis logique, je dois dire ça. Si le bien est au-delà de l'ousia, c'est le bien qui explique l'ousia. Donc c'est le bien qui explique l'être. Ou est-ce qu'au contraire, le bien est tout simplement un mode de l'être en acte? Le bien correspond à l'un. Vous pourriez dire la même chose par rapport à l'un. L'un est au-delà de l'ousia. Alors est-ce que l'un est un mode de l'être en acte? Vous voyez, ces questions-là sont des questions qu'Aristote s'est sûrement posées, étant donné que Platon disait que le bien est au-delà de l'ousia et que l'un est au-delà de l'ousia. Alors on doit se poser ces questions-là. Et c'est important parce que ça pose tout de suite avec beaucoup d'acuité, voyez, le problème de cette recherche. Essayons de découvrir dans l'être la place du bien. Est-ce que je peux découvrir dans l'être la place du bien? Est-ce que je peux découvrir dans l'un la place du bien? Ou est-ce que nécessairement le bien et l'un sont au-delà de l'être? Oui. D'une autre manière, c'est toujours important de bien se poser le problème, vous comprenez bien. Je voulais poser, moi, d'une manière plus classique, si vous voulez, eh bien, je reviens ici, je dirais ça, face à Platon. Et face à ceux qui disent, donc le père de finance, face à ceux qui disent que l'action est du surêtre. Surêtre, ça veut dire que l'action est au-delà de l'être. Mais alors c'est très intéressant ça, parce que ça aboutit, vous comprenez, à dire l'action humaine, c'est l'éthique. L'être, c'est la métaphysique. Alors, est-ce que l'éthique enveloppe la métaphysique, ou est-ce que la métaphysique enveloppe l'éthique? Le bien commande l'éthique. Alors, est-ce que l'éthique enveloppe la métaphysique, ou est-ce que l'éthique est une partie de la philosophie? Vous savez ce que dit M. Lévinas là-dessus? Parce qu'il dit que l'éthique n'est pas une partie de la philosophie, mais qu'elle est adéquate à la philosophie première, à la métaphysique. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que ça fait comprendre tout de suite, vous voyez, on touche des problèmes très fondamentaux, là. C'est pour ça que je voulais reprendre, parce que c'est important. Ce n'est pas simplement de découvrir l'être en acte, c'est très important de découvrir l'être en acte. Mais voir que la découverte de l'être en acte va permettre de voir comment dans l'être se situe bien. Et par le fait même, les relations entre éthique et métaphysique. Les relations entre éthique et métaphysique, ce sont les relations entre le bien et l'être. Aristote l'a très bien senti, ça. Regardez le début de l'éthique. Tout de suite, Aristote essaie de comprendre que l'éthique regarde le bien humain et pas le bien en soi. Tandis que pour Platon, le point de vue de l'éthique regardait le bien en soi. Alors, est-ce que l'éthique, c'est le bien humain ou bien c'est le bien en soi? Est-ce que l'éthique, c'est la recherche du bonheur humain ou est-ce que l'éthique, c'est la recherche d'une réalité qui est au-delà de l'homme? Une réalité qui est surhumaine. Donc, voyez, ces problèmes-là, vous pouvez les noter en nota bene pour bien comprendre comment se situe le problème de l'art et de la puissance. C'est très important pour nous de nous demander est-ce que vraiment le point de vue du bien est au-delà de l'ousia. Vous savez comment saint Thomas répond? Ça peut être aussi un nota bene, ça. Vous savez comment saint Thomas répond? Parce que saint Thomas s'est posé le problème dans la somme théologique, prima pars, question 5, où saint Thomas se pose la question, quels sont les rapports entre ens et bonum? Ens et bonum. Alors saint Thomas nous dit que la ratio entis contient la ratio boni, contient, comprenons bien, est adéquate à la ratio boni, mais que la ratio entis est première du côté de l'intelligibilité. Parce que tout ce que je le comprends en tant qu'il est. Ens primum cadit in intellectu. C'est l'être, ce qui est, qui tombe en premier lieu dans l'intelligence. Donc la ratio entis est première par rapport à la ratio boni. Mais saint Thomas ajoute tout de suite, et c'est ça qui est très intéressant, saint Thomas ajoute tout de suite qu'au niveau des causalités, l'ens commande la causalité formelle et le bien commande la causalité finale. Or, la causalité finale est cause des causes, donc, du côté de la causalité, le bien passe avant l'être. Très intéressant à montrer. Du côté de la causalité, le bien a quelque chose de premier. Du côté donc des causalités, donc du côté de l'exercice. Le bien est premier. Vous voyez, entre parenthèses, c'est ça qui permet de comprendre comment la théologie scientifique, est enveloppée d'une théologie mystique. C'est là où vous pouvez montrer comment saint Bonaventure et saint Thomas ne se tournent pas le dos. Donc, il peut y avoir un lien très profond entre les deux. Saint Bonaventure, c'est le point de vue du bien, c'est le primat du bien. Et bien ce primat du bien, c'est du côté de l'exercice, c'est du côté de la causalité. Donc assumons saint Bonaventure du côté de la causalité. Et comprenons que saint Thomas, en théologie scientifique, regarde l'intelligibilité. C'est ça, comme nota bene, c'est intéressant parce que c'est toujours les problèmes fondamentaux sur lesquels on revient. Quelles sont les relations entre l'être et le bien? Bien, ça c'est vieux, puisque je vous dis, hein, c'est Platon. Et on voit qu'Aristote en face de cela va essayer de répondre à Platon. Comment va-t-il répondre en face à Platon? C'est en regardant le point de vue de la dynamis. Le début du livre Theta, c'est la dynamis. Donc la capacité d'agir, la capacité de facere, de faire, c'est la dynamis. La dynamis va nous faire comprendre comment, de fait, l'ousia est source d'un dépassement. Il y a un dépassement dans l'ousia. L'ousia ne peut pas être adéquate à l'être. Il y a quelque chose de nouveau. Elle est source d'un dépassement. Et ce dépassement n'est pas un dépassement qui fait qu'on est en phase d'un surêtre. Ce dépassement, c'est encore l'exigence même de l'être. C'est l'être parfait. La substance ne donne pas l'être parfait. La substance me donne la nudité de l'être, hein, si j'ose dire. Une nudité qui fait que l'être n'est pas pleinement ce qu'il doit être. Et l'être n'est parfaitement lui-même que lorsque, justement, je saisis qu'il y a cet état de perfection. Bon. Alors, nous avons essayé de voir, je crois, la dernière fois, comment il y a cette induction analogique, synthétique. Hein? S'il y avait des difficultés là-dessus, il faudrait me les noter. Mais autrement, nous avançons. Hein? Je ne reviens pas dessus. Mais cette induction analogique, synthétique se comprend toujours par le point de vue de l'interrogation. Hein? Comprenez bien. Vous n'induisez que si vous interrogez. Si vous n'interrogez pas, vous n'induisez plus rien du tout. Parce que par l'interrogation, votre intelligence est en état d'appétit. Votre intelligence veut avancer. Et c'est l'intelligence qui veut avancer qui est capable de dépasser l'expérience. C'est ça qui est très important à voir. Parce que par le point de vue de l'interrogation, j'ai une hypothèse de recherche. Or, l'hypothèse de recherche est très importante pour dépasser l'expérience habituelle. Vous voyez, l'expérience est quelque chose qui me saisit très fortement. L'expérience, je la décris. Et donc, c'est quelque chose qui me saisit, qui me prend. Si je n'ai pas le désir d'aller au-delà de l'expérience par un point de vue d'hypothèse, je n'irai jamais au-delà de l'expérience. Je resterai donc toujours enfermé dans l'expérience. Et quand je reste enfermé dans l'expérience, eh bien, je ne vais pas très loin. Je ne fais que décrire. Donc il faut que l'hypothèse soit là pour dépasser. Et ceci est d'autant plus important qu'ici l'expérience est multiple. Parce qu'il faut une induction synthétique. Et quand l'expérience est multiple dans des domaines très différents, c'est déjà très beau de regarder cette expérience. C'est déjà très intéressant de décrire cette expérience. Mais il faut la dépasser. Et dépasser cette expérience se fait donc par l'interrogation. Ça, c'est très important parce que là, nous saisissons, vous voyez, les deux aspects de l'intelligence. L'intelligence est faite pour ce contact immédiat avec la réalité, parce que c'est une intelligence qui est liée au sens. Et l'intelligence est faite pour dépasser le visible, et pour atteindre quelque chose d'autre, quelque chose qui est du domaine de l'invisible, donc le domaine de l'universel, le domaine des principes. Et des principes propres. Donc l'intelligence est dans cet état de dépassement. C'est pas si commode que ça. Hein. Surtout aujourd'hui. Arriver à comprendre qu'il faut dépasser le visible. Et ça, c'est le propre de l'induction. Oui. Tant qu'on n'a pas saisi cette démarche inductive, vous resterez dans le domaine de la description. Et donc la phénoménologie va s'imposer à vous comme la seule méthode philosophique. Et dans l'expérience interne, qu'est-ce qui est premier? C'est le bien. Et donc vous direz que le bien, l'éthique, égale la métaphysique. Et vous voyez comment on arrive à ça? C'est toujours important de saisir. Alors dire que l'éthique égale la métaphysique, vous voyez que c'est très grave. Vous ne pouvez plus comprendre le dépassement de l'homme. Philosophiquement parlant, vous êtes obligé de rester dans l'immanent. Et donc vous n'atteignez jamais l'autre. Et vous restez dans la philosophie du même. Tout ça se tient. Il y a un lien entre tous ces points de vue qui font qu'on reste dans la philosophie du même. Alors il faut découvrir comment, de fait, on ne peut pas rester dans cette philosophie du même dès qu'on part de l'expérience. Le départ même de la philosophie de l'expérience me fait atteindre l'autre. Et me fait interroger sur l'autre. Quand j'interroge sur l'être, quand j'interroge sur l'homme, j'interroge sur l'autre. Parce que l'homme, c'est pas seulement moi. L'homme, c'est plus que moi. C'est l'autre, en premier lieu. Vous voyez ? C'est moi aussi, mais c'est l'autre. Et alors, il faut comprendre justement que la philosophie de l'expérience me met tout de suite dans cette attitude d'un dépassement. Et ce dépassement ne se fera parfaitement que grâce à l'induction. Alors, je suis là en présence de cette induction qui, je crois, Heidegger le reconnaît, c'est intéressant de voir ça, Heidegger reconnaît, je vous l'ai dit, que le moment le plus important de la philosophie grecque, le sommet de toute la philosophie grecque. Donc là, il reconnaît que ça va plus loin que Parménide. C'est quand même assez extraordinaire. Il y a un petit peu un illogisme dans Heidegger à ce point de vue-là. Parce qu'il reconnaît que le sommet de la philosophie grecque, c'est la découverte de l'entelecheia, la découverte de l'énergeia, c'est donc la découverte de l'être en acte, c'est le sommet. Rien ne va plus loin. Et en même temps, pour lui, Parménide représente celui qui a le mieux saisi l'être. Alors je ne comprends pas comment on peut atteindre le sommet de la pensée grecque, en saisissant l'entelecheia et l'energeia, si on n'a pas saisi l'être. Alors il faudrait dire qu'il y a un super être. Encore. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Heidegger reconnaît que c'est là le sommet de la pensée grecque. La pensée grecque n'a jamais été au-delà de la saisie de l'entelecheia et l'energeia. Ce qui fait que nous devons nous acharner à ce livre Theta d'Aristote et comprendre ce que représente cette induction analogique synthétique. Et nous devons la secouer dans tous les sens. Ça, il faut bien comprendre ça, parce que si on ne la secoue pas dans tous les sens, on ne la comprend pas. On la répète. Alors, il faut que vous l'ayez saisie. Une fois qu'on a saisi l'induction de l'être en acte et de l'être en puissance, je crois qu'à ce moment-là, on entre vraiment en métaphysique. Ce n'est pas suffisant l'ousia. Parce que par l'ousia, je peux encore rester dans une immanence de la métaphysique. Spinoza, le philosophe de la substance, et qui ne dépasse pas la substance, et qui reste dans l'immanence de la forme, l'immanence de la détermination. Il faut donc, à tout prix, ça, si on veut entrer en philosophie première, et c'est une fois qu'on a compris ça, voyez, vous pouvez tout de suite jauger si les gens sont entrés en philosophie première ou pas. Vous leur posez la petite colle. C'est intéressant. Il faut le faire avec intelligence. Il faut poser le texte d'Aristote. Il y a un texte difficile que je ne comprends pas. Ce livre Theta du chapitre 6 d'Aristote, expliquez-moi un peu ça. Alors vous voyez tout de suite la manière dont on l'explique. Je dis, oh, c'est pas intéressant, c'est pas important. Ah bon, très bien. Ça prouve qu'on reste à l'ousia, qu'on reste platonicien. On est aristotélicien que lorsqu'on saisit l'être en acte. Et c'est Heidegger qui le reconnaît. C'est intéressant. C'est Heidegger qui reconnaît ça. On n'est aristotélicien que si on a saisi l'être en acte. C'est l'examen qu'on peut faire passer aux gens. C'est intéressant de voir ça, c'est un petit examen. Il faut que les étudiants de temps en temps fassent passer des examens à leurs professeurs. Alors c'est l'examen qu'on doit faire passer. Qu'est-ce que c'est que l'être en acte? Alors quand vous voyez ce que c'est que l'être en acte et l'être en puissance, alors là vous pouvez commencer à dire oui. On peut très bien dire, c'est très difficile, moi je serais tout à fait d'accord à dire, c'est très difficile, il faut du temps avant de découvrir ce que c'est que l'être en acte et l'être en puissance. C'est bien évident. Induction analogique, synthétique. Il faut donc être suffisamment puissant pour découvrir ces cinq voies d'accès, ces cinq manières d'aborder le problème de l'être en acte et l'être en puissance. Les saisir dans leur diversité, dans leur unité, sous le point de vue de l'interrogation. S'il n'y a pas l'interrogation, s'il n'y a pas cette diversité et cette unité, vous êtes incapable de saisir cette induction. Une fois que vous saisissez cette induction, vous saisissez que, de fait, l'être en acte a une priorité sur l'être en puissance. Alors, je vous avais dit, et je le répète parce que ça vaut la peine,
qu'il faut, à tout prix, si on veut entrer un peu dans cette métaphysique de l'être en acte et en puissance, si on veut la saisir un peu, en la secouant bien, il faut bien saisir ce qui est, ce divin en nous y a une qualité. Et ce qui est se divise en être, l'être en acte et l'être en puissance. Voilà les deux grandes divisions de l'être. Et comme c'est intéressant, si on prend le point de vue de ce que représente la dialectique, la dialectique n'a qu'une seule division. Là, vous avez deux divisions. Tout de suite, vous êtes dans l'analogie. Impossible autrement. Vous ne pouvez pas entrer en métaphysique sans comprendre cette double division. Cette division qui se fait selon la forme, selon la fin. Il serait important de dire selon la forme et selon la fin. Pour bien montrer, vous voyez, que analogiquement c'est la forme, analogiquement c'est la fin. C'est analogiquement la fin et la forme. Notre difficulté, c'est que nous avons beaucoup de peine de comprendre analogiquement ce que c'est que la fin. Bien, analogiquement ce que c'est que la fin, c'est l'être en acte. Alors, ce qui est important, ce qui serait très intéressant à creuser, c'est la diversité de ces deux divisions. L'être se divise. C'est l'intelligence qui fait ça. Quand vous regardez ce qui est, c'est-à-dire vous-même, les deux fêlures de l'être, les deux fêlures de l'être, puisque l'être se divise, s'il se divise, il est fêlé. Autrement, il ne peut pas. Donc, les deux divisions de l'être, les deux fêlures de l'être, cette fêlure au niveau de la forme, l'ousia, et la qualité. Et la fêlure au niveau de la fin, l'être en acte et l'être en puissance. Alors, comprendre comment cette division fondamentale fait que l'ousia a une antériorité absolue. L'ousia a une antériorité absolue sur la qualité. La qualité ne peut exister que si l'ousia existe. Une antériorité absolue. Tandis que vous êtes obligé de reconnaître que l'être en acte n'a pas la même antériorité. Puisque, de fait, quand il s'agit du devenir, la puissance reprend son primat. Tandis que vous ne le faites pas du côté, vous ne pouvez pas le faire du côté de la primauté de l'ousia. Alors ça pose des quantités de problèmes. Pourquoi, de fait, vous avez une antériorité absolue de l'ousia et vous n'avez pas une antériorité absolue? Enfin, nous l'avions réfléchi là-dessus. J'y reviens pour voir si vous avez bien pensé depuis et si vous avez réfléchi là-dessus. C'est quand même très important. Parce qu'à première vue, vous comprenez, à première vue, je dis que la division de l'être en acte et de l'être en puissance est quelque chose qui va plus loin. On est tous d'accord là-dessus. Puisque le fait de la fin est quelque chose de plus radical que la forme. La fin présuppose la forme. Mais la forme ne présuppose pas la fin. Donc, si la fin présuppose la forme, la fin va plus loin. Donc, diviser l'être selon la fin, c'est une division plus radicale, plus profonde. Donc, si c'est une division plus radicale et plus profonde, il semblerait que l'antériorité de l'acte va beaucoup plus loin, et donc est beaucoup plus universelle. Alors, comment se fait-il que l'antériorité de l'ousia est absolue et que l'antériorité de l'acte ne l'est pas? Alors évidemment, vous pouvez, hein, selon un petit schéma très simple, dire, mais oui, le genre est beaucoup plus extant, a une extension beaucoup plus grande que la différence spécifique. Or, l'acte est beaucoup plus du côté de la différence spécifique que la substance. Alors, on comprend. Ça nous aide à comprendre, ça. Et il ne faut pas prendre ça trop absolu. Hein, parce que je ne peux pas dire que ici, je suis du côté du genre et ici, de la différence spécifique. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes dans une connaissance analogique, donc d'un type tout à fait différent. Mais il y a quelque chose de juste. C'est que je vois que la division de la substance et de la qualité est quelque chose de fondamental. Comme le genre. Là, il y a quelque chose d'analogique. Comme le genre. C'est quelque chose de fondamental. Si c'est quelque chose de fondamental, c'est donc quelque chose qui, normalement, étant plus radical, précise moins. Il y a une moins grande précision dans l'ousia que dans l'acte. Alors là, je peux le dire. Alors ça, ça va très loin. Et c'est très intéressant. Parce que ça montre que l'ousia ne permet pas de discerner parfaitement la distinction de l'être et de l'humain. Donc toute philosophie à la manière de Hegel, qui est une philosophie de la forme, comme Platon. Ce sont des philosophies qui ne me permettent pas d'aller jusqu'au bout de la distinction de l'être et du devenir. Je reste à une cause. Je suis fatigué. Je ne veux pas plus loin. Je m'arrête. Et donc la distinction de l'être et du devenir n'est pas parfaite. C'est peut-être à cause de ça, mais je ne peux pas, par l'ousia, remonter jusqu'à l'être premier. Je ne peux pas par l'ousia, c'est impossible. Or, si je ne peux pas par l'ousia remonter jusqu'à l'être premier, c'est parce que justement, dans l'ousia reste une certaine confusion. Je suis dans l'ordre premier selon la substance, selon la forme. Mais ça ne va pas jusqu'au bout. Et ça, il faut creuser ça. Parce que je crois que c'est très important. Seule la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance permet de discerner parfaitement et de rendre compte de la distinction de l'être, du devenir et de l'être. Par la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance, je rends compte de la différence qui existe entre l'être et le devenir. Et je ne peux pas, par l'ousia, rendre compte de la distinction de l'être et du devenir. Et c'est pour ça que, aimablement, poliment, la distinction de l'être en acte de puissance fait passer devant le devenir. Le devenir, dans l'ordre du devenir, la puissance est première. Dans l'ordre du devenir, la puissance est première. Et parce que dans l'ordre du devenir, la puissance est première, je comprends mieux ce que c'est que l'être, différent de la puissance. Parce que l'être, c'est justement là où l'acte est premier. Et je justifie, l'être, c'est là où l'acte est premier. Et je ne peux pas dire ça du devenir. Je ne peux pas dire que dans le devenir, c'est là où l'acte est premier, c'est l'inverse. Le devenir, c'est là où la puissance est premier. Chaque fois où la puissance est première, vous êtes en phase du devenir. Donc vous justifiez la différence radicale qui existe entre l'être et le devenir. Je dis bien distinction. C'est important par rapport à Heidegger, vous voyez. Je comprends très bien ça, la position de Heidegger. C'est que Heidegger a saisi que l'être en acte, c'était vraiment ça qui était tout à fait capital. Heidegger se trouve en face d'une métaphysique, ne l'oublions pas, qui est une métaphysique de l'ousia. Wolf. Ce n'est pas une métaphysique de l'acte. On comprend comment Heidegger veut séparer l'être de l'étant. Parce que si je reste en face d'une philosophie de l'ousia, je n'arrive pas à saisir l'être dans toute sa pureté. Et parce qu'on ne saisit pas l'être dans toute sa pureté, on saisit l'être dans l'étang. Et c'est à gros grief que Heidegger fait par rapport à la métaphysique traditionnelle. Parce que la métaphysique traditionnelle, vous voyez, wolfflienne, donc la scolastique décadente, est restée uniquement au niveau de l'ousia. Et alors on projette cette décadence de la scolastique sur Aristote, sans voir qu'Aristote, pas du tout, Aristote a dépassé l'ousia pour saisir l'être en acte et l'être en puissance. Et alors, c'est intéressant parce que Heidegger saisit qu'il faut séparer l'être du devenir. Il faut séparer l'être de l'étant. Ça, il le saisit très bien. Mais alors, à la place de le faire par une analyse de l'être en acte et d'être en puissance, il le fait par une séparation. Et ça, c'est la dialectique. C'est le restant Hegelien de Heidegger. Alors, c'est la dialectique. La dialectique sépare, elle n'analyse pas. Oui. Et on voit ça, c'est important parce que ça nous aide à mieux comprendre, vous voyez, c'est toujours essayer de mieux comprendre cette position heideggerienne qui à première vue semble curieuse. Il veut découvrir l'être et il le sépare de l'étant. Pourquoi? Parce qu'au fond, il est en face d'une métaphysique de l'ousia qui fait que l'être n'est pas saisi dans toute sa pureté, il est saisi à l'intérieur de l'étang. Donc, il est toujours saisi, lié au devenir. Si l'être est toujours saisi, lié au devenir, ce n'est pas l'être dans toute sa pureté. Et donc, pour saisir l'être dans toute sa pureté, il faut le séparer complètement de l'étang. Ce que nous ne sommes pas obligés de faire, dès que nous saisissons l'être en acte, la division de l'être en acte et de puissance. Nous comprenons qu'il y a une priorité de l'être en acte sur la puissance, et cette priorité de l'être en acte sur la puissance, elle est parfaite. L'être en acte n'implique aucun devenir.